Ludivine Bantini, on est ravis de vous accueillir ce soir à la librairie Mola, en présentiel qui plus est, pour ce livre qui s'intitule donc « Nous ne sommes rien, soyons toutes ». Je ne vais pas le chanter, vous aurez reconnu l'air de la chanson. « Histoire de femmes en lutte et de lutte féministe de la Révolution française à nos jours », publié au Seuil cette année, un livre de 375 pages. Alors, Ludivine Bantini, je vous présente quand même, même s'il n'y a plus trop besoin, mais je le fais. Vous avez publié de très nombreux ouvrages sur mai 68, sur les mouvements sociaux en général, des livres d'histoire, des livres plus militants, des livres sur les luttes sociales. Alors j'en cite quelques-uns récents, un livre collectif « Histoire globale des révolutions » en 2023, et des ouvrages plus directement militants comme « L'ensauvagement du capital » publié aussi au Seuil en 2022. Et vous revenez aujourd'hui avec cette somme sur deux siècles de l'histoire des femmes et du féminisme. Alors, comme d'habitude chez Mola, je vais poser un certain nombre de questions. Et puis ensuite, dans une heure, il y aura les questions de la salle. Hein, donc gardez bien vos fulgurances et vos interrogations, y compris pour mes étudiants de Sciences Po qui sont venus. Donc merci. Et ma première question, en fait, elle est très simple. On le sait, et pour toute personne qui fréquente les rayons de la librairie Mola, depuis le mouvement MeToo et cette grande vague de contestation des violences faites aux femmes, il y a un champ éditorial qui s'est créé, où on trouve beaucoup de choses, de Mona Chollet à Suzanne Faloudi, en passant par Rebecca Solnit. Et dans l'histoire des femmes et des féminismes, on a eu récemment, par exemple, le livre de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, qui s'intitule « Ne nous libérez pas, nous allons nous en charger », sur l'histoire, nous, on s'en charge, sur l'histoire des féminismes sur deux siècles. Vous, avec ce livre, qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter? Un renouvellement du récit, des portraits individuels? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre?
Bonsoir d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, très heureuse et très émue toujours d'être là. Merci beaucoup Nicolas pour cette préparation et cette lecture précise. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que ce livre est issu de recherches très longues, de plongées en archives, de plongées dans des sources parfois nouvelles, dans un premier temps parce que j'ai été commissaire scientifique d'une exposition qu'on peut voir actuellement, c'est pas si loin, à Angers. Sous l'égide d'une association qui a été créée par deux historiennes, Julie Verlaine et Christine Barr, qui s'appelle La Fémuse, pour un musée des féminismes, pour créer un musée des féminismes. Et donc, c'est la première exposition, et cette exposition s'appelle « Les femmes sont dans la rue ». Révolte, subversion, émancipation. Et donc, pour le commissariat scientifique de cette exposition, je me suis plongée dans énormément de sources, d'œuvres, de documents, d'archives de première main. Et évidemment, c'est toujours un peu frustrant parce que dans une exposition, il y a à la fois beaucoup d'enthousiasme, d'élan, d'allant. Et d'un autre côté, ben, en fait, les textes qu'on doit proposer, évidemment, ils sont assez courts, ils sont synthétiques. Et moi, j'avais vu tellement de sources, encore une fois, de première main, que j'ai eu envie d'écrire cet ouvrage. Donc, là, par rapport à ce que vous dites sur les ouvrages précédents, et c'est évidemment extrêmement réjouissant qu'il y ait une telle historiographie et un champ considérable, aussi bien sur le plan des sciences sociales, des sciences humaines, que sur le plan plus directement politique et engagé. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pas une histoire des femmes ou une histoire des féminismes en général, mais c'est une histoire de la radicalité dans les luttes de femmes. Donc, ce que beaucoup de ces féministes appellent le féminisme intégral. J'ai voulu comprendre leur stratégie, leur projet, leur tactique, comment elles s'organisent et comment, en particulier, dans la mesure où elles se veulent radicales, qu'elles vont à la racine des systèmes d'oppression, de domination, d'exploitation, comment elles nouent des liens, comment elles entremêlent leur mobilisation, leur lutte, leurs engagements avec des mouvements sociaux, des soulèvements populaires, des révoltes, des insurrections et parfois même des révolutions. C'est ça qui m'a vraiment intéressée. Donc, en somme, c'est un livre avec beaucoup de travail d'archives. C'est-à-dire que, justement, je n'ai pas voulu répéter, et a fortiori, parce que c'est toujours la tentation, étant donné, comme vous l'avez souligné, l'ampleur du champ, ne pas plagier, surtout ne pas plagier, parce que j'en connais malheureusement. Mais surtout, voilà, rendre vivantes ces luttes, y compris pour aujourd'hui, parce que moi, je trouve qu'on peut y puiser énormément de sources d'inspiration. Ce n'est pas forcément, bien sûr, du fétichisme, ni a fortiori du mimétisme. On n'est pas là pour reproduire, pour reconduire, mais en fait, ça donne de la force, ça donne de l'énergie et de la ténacité, parce qu'elles en ont beaucoup. Et puis, c'est une source d'inspiration dans la mesure où elles se sont posées énormément de questions Ce sont des expériences sensibles, des expériences pratiques, toujours des expériences éminemment politiques depuis la Révolution française. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ce livre, avec une sorte de chaîne de femmes de la Révolution à nos jours.
Alors ça, on y viendra, c'est le côté narratif du livre qui est une très belle réussite, ce sera la question d'après. Ce qui est intéressant, on le voit dès le titre, c'est « Femmes en lutte et histoire des féminismes ». Vous utilisez beaucoup, ça m'a amusé et beaucoup plu, le terme de « féminisme avant le mot ». Pourquoi ? Parce qu'on sait que, très bien que sur certains mouvements féministes, ça c'est les historiens et historiennes qui ont ce réflexe-là, qui dit mouvement organisé, dit archive, dit facilité de retrouver un certain nombre de ces luttes organisées du féminisme. Mais comme vous remontez à la Révolution française, il y a aussi ces femmes en lutte qui n'étaient pas nécessairement organisées, qui n'ont pas laissé forcément beaucoup d'archives. Comment vous avez travaillé sur ça, sur ce féminisme avant le mot, quand il n'était pas possible de trouver des groupes sociaux, mais seulement peut-être des individus ?
Oui, alors donc je précise peut-être un rappel pour vous à que le terme de féminisme, dans le sens où on l'emploie aujourd'hui, il date du début des années 1880. On peut même le dater très précisément, 1882, la première occurrence du terme féminisme, dans le sens, et je vous promets, je ne vais pas employer beaucoup de gros mots, d'une antiparastase. Alors c'est quoi une antiparastase ? C'est quand on prend un mot qui existe déjà, mais qui est disqualifiant, qui est insultant, qui vise à dénigrer, et on se le réapproprie. D'un point de vue positif, d'un point de vue enthousiaste. Donc, en gros, c'est une sorte de défi provocateur et insolent. Et ça a été le cas pour la personne incroyable, d'ailleurs, par son engagement, Hubertine Auclert, qui, en 1882, donc, a décidé de retourner ce terme de féministe qui était utilisé d'abord dans des traités de médecine, mais c'était vraiment de l'anatomopathologie. C'était vraiment un terme très disqualifiant, qui visait surtout des hommes qui, supposément, d'après les codes du temps, les codes du genre du temps, n'étaient pas assez virils. Donc féministe, ça voulait dire pas assez viril, pas assez masculin, pas assez masculiniste. Et puis c'était aussi devenu une insulte, notamment sous la plume de certains écrivains comme Alexandre Dumas fils. Et donc Hubertine Auclert a dit « Oh, mais très bien, féminisme, je prends, on le prend, nous le prenons ensemble et nous en faisons un terme d'émancipation, un terme de justice et d'égalité ». Mais on peut considérer qu'avant que ce mot existe, eh bien, il y avait des femmes et aussi des hommes féministes. Et ce, depuis au moins la Révolution française. Donc évidemment que ces femmes ne se revendiquent pas comme telles, mais en revanche, elles se battent pour l'égale liberté. L'égale liberté, c'est un concept que je reprends à Étienne Balibar, ou l'idée du signe égal. Voilà, du signe égal, comme le dit aussi la théoricienne féministe et philosophe Geneviève Fraisse, le signe égal. C'est ça, fondamentalement, leur lutte. Mais du coup, c'est nécessairement des luttes très amples, très vastes, parce qu'à chaque fois, elles se disent « Il ne suffit pas d'avoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Il faut bien davantage pour avoir une véritable justice, pour avoir une société bonne, une société meilleure. » Donc, c'est pour ça que voilà, leurs combats sont entremêlés. Donc, pour répondre à la question que vous posiez sur les archives, sur les sources, c'est vrai que, en gros, j'ai fait une plongée un peu tous azimuts et pas uniquement dans les fonds auxquels on s'attend. Alors, bien sûr, il y a ces fonds magnifiques, et d'abord celui du Centre des archives du féminisme à Angers. C'est aussi la raison pour laquelle cette exposition dont je parlais et le futur musée des féminismes seront à Angers. Donc il y a un centre des archives du féminisme avec des fonds incroyables, il y a bien sûr les fonds de la bibliothèque Marguerite Durand, il y a beaucoup de fonds aussi de féministes avec beaucoup de correspondances, notamment à la bibliothèque historique de la ville de Paris, mais il y a aussi beaucoup de sources dans les archives plus classiques et en même temps moins attendues pour l'histoire des femmes et des féminismes, c'est-à-dire des archives de police, des archives de justice, des archives carcérales, des archives nationales au niveau des ministères, au niveau de la répression aussi, parce que malheureusement, comme vous le savez, Nicolas, et puis comme le savent beaucoup d'historiennes et historiens, en fait, c'est souvent dans les archives de la répression qu'on peut retrouver des noms, des figures, des projets, des espoirs, même s'il s'agit pour les forces de l'ordre de les traquer, parce qu'à leurs yeux, ce sont des mots de désordre et des pratiques de désordre. Donc en fait, dès la Révolution française, on retrouve beaucoup de ces femmes qui n'ont pas forcément laissé un nom dans notre histoire, mais pourtant elles auraient dû, et c'est important qu'on les fasse revivre, qu'on fasse ressurgir leur histoire, leur figure, leur projet, notamment voilà, des femmes qui ne savent ni lire ni écrire. ou qui parfois sont autodidactes, mais qui laissent des traces dans ces archives de la répression. Je pense par exemple à une coiffeuse qui s'appelait Françoise Séjourné et qui, dans les années 1791-1792, eh bien, se lance dans des marches, dans des pétitions, dans des tintamarres, comme on le disait beaucoup à l'époque. Je pense par exemple à cette autre femme, voilà, Marie-Françoise Beaujon, qui fait partie de ces femmes, qui, femmes du peuple, femmes des classes populaires, qui entrent dans cet engagement à la fois social, engagement social parce que souvent on les retrouve dans les révoltes populaires, frumentaires, elles exigent la justice sociale, mais aussi politique, parce qu'à chaque fois, ce qu'elles revendiquent, c'est une forme de citoyenneté. On peut citer, par exemple, aussi, pendant la Révolution française, Claire Lacombe, une comédienne qui, elle, sait lire et écrire et qui va laisser dans sa correspondance, notamment depuis sa prison, des témoignages extrêmement poignants, puisqu'en fait, elle, à chaque fois, elle signe, et je reproduis certaines de ses sources dans le livre, elle signe depuis sa prison, depuis sa geôle, Claire Lacombe, citoyenne et femme libre, même depuis sa prison. Et puis je cite aussi des femmes qui auraient pu laisser davantage une place dans notamment l'histoire de la philosophie. Un dernier exemple peut-être à ce sujet sur la période de la Révolution française. Alors, Sophie Grouchy. Alors, oui, j'entends Émilie du Châtelet. Sophie Grouchy, peut-être que vous ne la connaissez pas. Ça m'intéresserait de savoir si vous la connaissez. Sophie de Grouchy de Condorcet. Alors, on peut estimer que c'est la femme de, voilà, c'est la femme de Nicolas de Condorcet, le seul philosophe des Lumières, le seul philosophe révolutionnaire féministe, puisqu'il réclame véritablement l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'il est vraiment favorable et qu'il va défendre dans un manifeste beaucoup mieux diffusé, beaucoup plus diffusé que celui d'Olympe de Gouges, un manifeste qui réclame donc le droit de vote des femmes. Mais en réalité, c'est lui qui a la chance d'être marié à Sophie de Grouchy. C'est lui qui est le mari d'eux. Parce que Sophie de Grouchy, elle est extraordinaire. C'est une jeune femme, hein, quand elle épouse Nicolas de Condorcet. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Mais c'est aussi une philosophe et elle est incroyable. Donc, je vous en dis encore quelques mots. Elle est incroyable parce que c'est une féministe avant la lettre, comme vous l'avez souligné, avant le mot. Elle réclame véritablement l'égalité, mais elle se place sur un plan qu'on pourrait nommer matérialiste. Son mari, Nicolas de Condorcet, il est un peu idéaliste. Donc, il réclame des principes, des droits, mais pour des individus un peu abstraits. Alors que Sophie de Grouchy, elle essaye de comprendre les conditions sociales, les conditions matérielles de possibilité d'une véritable égalité. Et donc, même si elle est noble, Sophie de Grouchy, épouse de Condorcet, eh bien, elle veut diminuer considérablement, voire radicalement, les inégalités de fortune. Elle estime que la véritable égalité, notamment entre les femmes et les hommes, ne sera réalisable que si on a une égalité sociale. Donc, c'est une révolutionnaire, mais vraiment dans tous les sens du terme, à la fois d'un point de vue féministe, mais du point de vue aussi de la justice sociale.
Alors, merci. On entre directement dans un des éléments du livre qui est très intéressant, c'est que pour écrire un livre comme ça, il y a la question de quel récit. Or, souvent, d'ailleurs, on discute avec l'éditeur ou l'éditrice. Et vous avez fait un parti pris que je trouve très réussi, c'est qu'on voyage. Alors, je paraphrase, vous la paraphrasez aussi, vous citez Gabrielle Bouet, une institutrice de 1917, qui parle d'un ruban de femmes. Ce n'est pas une chaîne de femmes, ce n'est pas des liens vraiment inextinguibles, c'est un ruban de femmes qui se suivent les unes les autres, qui se lisent, qui se connaissent, qui s'imitent, qui parfois ne se connaissent même pas. Et les chapitres sont donc fondés, voilà, sur des portraits. On voit quelques exemples de tous ces noms que vous connaissiez pas et que vous connaîtrez peut-être quand vous lirez le livre. Et j'ai trouvé ça très réussi, cet enchâssement de biographies qui se suivent les unes les autres. Alors, moi, ma question est toute bête, c'est, on connaît aujourd'hui le terme de sororité, qui est un terme militant du féminisme actuel, hein, pour dire ces liens forts dans les luttes. Est-ce que tout ça, c'est une sororité? Est-ce que ce ruban est beaucoup plus évanescent? Comment vous avez construit ce récit de lien des femmes les unes avec les autres?
Alors, merci pour cette belle expression, enchâssement de biographie, c'est très beau. Même si, pour ma part, je ne l'ai pas conçu comme ça, donc ça m'intéresse d'avoir votre lecture de ce point de vue aussi, parce que, pour moi, ce ne sont pas uniquement des biographies qui se succéderaient. C'est plutôt, et vous le savez, et en fait, voilà, mais c'est plutôt un... une longue histoire justement des stratégies qu'elles mettent en œuvre et de leur volonté émancipatrice. Donc finalement, ces femmes ne sont pas juste des prétextes à raconter une histoire qui les dépasse, une histoire plus vaste. Ce ne sont pas non plus, surtout pas, des allégories, parce qu'on sait que beaucoup de femmes au XIXe siècle ne sont représentées que sous la forme d'allégories, de métaphores, de pures images. Donc là, ce sont des femmes incarnées, et la question du corps est d'ailleurs très présente. En fait, leur idée, c'est d'exposer leur corps d'un point de vue social et politique dans ces mobilisations. Donc ça, ça a été un principe directeur, mais aussi de faire corps au sens d'une solidarité et de faire corps aussi au sens de groupes sociaux, voire de nations, voire de citoyenneté. Donc faire corps au sens aussi démocratique du terme. Donc ce ne sont pas des reflets, ce ne sont pas des prétextes, mais j'ai choisi ces femmes. Alors évidemment, à chaque fois, avec un certain bonheur, parce que c'est vrai que ça permet de les suivre, de tenter par l'écriture des formes un peu de mimétisme. Et en même temps, c'est aussi un crève-cœur, parce que c'est un choix, qui est un choix à la fois subjectif et raisonné. Mais du coup, ben, voilà, celles-là sont présentes, mais peut-être aussi en partie pour les absentes. Et donc, en termes de choix d'écriture, hein, ce dont il s'est agi, je l'espère, ben, c'est d'avoir une écriture qui rende compte en fait de leur enthousiasme, de leur dimension tenace, parfois insolente, parfois de défi, parfois un peu effrontée, mais en tout cas toujours extrêmement courageuse, avec beaucoup d'audace, beaucoup parfois d'humour, parfois de jeu, parfois de gravité. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles entremêlent, hein, le terme d'entremêlement, finalement, il est intéressant à utiliser parce que c'est vraiment toute la trame conductrice du livre, c'est qu'elles entremêlent des projets, des mobilisations, mais elles entremêlent aussi beaucoup d'opposition, finalement, parce que d'un côté, elles sont souvent joyeuses, elles sont porteuses justement de cet enthousiasme, mais d'un autre côté, elles sont parfois écrasées par le poids de la tâche, par le poids aussi des persécutions, de la répression. Et c'est pour ça qu'elles sont toujours subversives, elles sont toujours transgressives. Comme je le disais tout à l'heure, évidemment, je n'ai pas du tout la prétention de faire une histoire des femmes, une histoire du genre, ni même une histoire des féminismes. Et vous l'avez dit, ça a été extrêmement bien fait et c'était très important de citer à nouveau le livre de Bibia Pavard, de Florence Rochefort et de Michel Zancarini-Fournel, « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Mais en fait, là, ce n'est pas une histoire de ces féminismes en général, c'est vraiment de ces femmes-là qui visent par leur radicalité à transgresser complètement l'ordre en place pour conquérir, et jamais mendier, hein, plutôt mourir, dirait-elle, jamais mendier des droits, mais les conquérir par et dans leur lutte, par et dans leurs projets, qui sont à la fois des projets qu'elles écrivent, qu'elles rédigent, et parfois pas, puisque parfois, comme je l'ai dit, elles ne savent pas écrire, mais elles transmettent un flambeau, finalement. Et donc, par rapport à cette question de la sororité, bien sûr, là aussi, c'est un néologisme. C'est intéressant de voir leur tâtonnement. Et ça, on le voit, par exemple, dans leur correspondance. Les féministes et femmes ouvrières, femmes des mouvements sociaux, des mouvements populaires, des années 1880, 1900, 1910, par exemple, souvent, elles ont une formule en guise de conclusion dans leurs lettres et de salut, c'est « Je vous serre bien fraternellement les mains ». Je vous serre bien fraternellement les mains, et donc bien fraternellement. Parfois, elles utilisent l'idée de fraternité féminine. Donc, on sent qu'elles cherchent justement à employer d'autres usages du terme fraternité. Et puis, il faudra attendre surtout le début des années 80, sisterhood, puis sororité, pour trouver véritablement ce mot. Mais c'est vrai qu'elles sont très ancrées sur la question des solidarités, même si, on pourrait y revenir peut-être, c'est une histoire qui n'est pas sans aspérité, qui n'est pas sans contradiction, sans tension. Il y a des divergences entre elles et parfois de graves conflits. Donc il ne faudrait pas non plus polir cette histoire, la polisser dans tous les sens du terme.
Sur cet aspect, de toute façon, l'introduction fait très bien le travail pour montrer que c'est une mise en cohérence narrative, mais qu'effectivement, il n'y a pas la femme, il n'y a pas le mouvement, il y a toujours de la diversité et du conflit. Alors, on ne va pas rentrer, on a vu là, dans cet début d'entretien, la dynamique générale de l'ouvrage, et on ne va pas rentrer dans un défilé chronologique, parce que tous les chapitres sont très bien charpentés sur une avancée petit à petit dans l'époque contemporaine. Mais quand même, vous avez cité beaucoup de noms, la Révolution française pétrit, je pense, encore, peut-être dans vos représentations, de contradictions. Pourquoi ? Parce que dans notre imaginaire français, 1789, 93, 95, choisissez vos dates, c'est l'émancipation. Et puis très souvent, on se dit émancipation, mais on oublie complètement qu'une partie, la moitié de la population n'a pas touché à cette émancipation. Alors, on a les grandes figures, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt et autres, mais dans un livre qui, moi, m'avait marqué, celui d'Eliane Viennot, qui s'appelait « Et la modernité fut masculine », cette chercheuse avait bien montré que, alors je le dis avec mes mots, je ne suis pas spécialiste, que la Révolution française était une très mauvaise nouvelle pour les femmes, avec un oubli volontaire, enfin parfois inconscient et très souvent volontaire des droits des femmes. Est-ce que sur ce grand moment 1789 et puis la suite, Napoléon, le Code civil, est-ce que vous pouvez nous dire finalement qu'est-ce qui se joue ? Est-ce que c'est la grande régression ou est-ce qu'au contraire il y a quand même un moment d'émancipation dans ces années-là qui sont des moments fondatrices de la politisation des femmes ?
Alors, je vais faire une réponse de Normande, hein, que j'ai été très longtemps, donc une espèce de réponse de synthèse, et un peu les deux, mon capitaine. Est-ce que ça a été un moment de régression ou est-ce que ça a été un moment d'émancipation ? Les deux, mon capitaine, parce que, en fait, d'un côté, ces femmes sont très présentes dans le moment révolutionnaire. Vraiment, elles sont parfois même au premier rang des mobilisations. C'est pas nouveau, d'ailleurs, parce que déjà, elles étaient des bouts de feu, comme on les nommait, des bouts de feu, dans les grandes révoltes frumentaires lors des disettes. Donc, on les voyait déjà se mobiliser sous l'Ancien Régime et parfois en tête de cortège. Et là, c'est souvent le cas. Et sous la Révolution française, on retient souvent le moment un peu matriciel des fameuses journées des 5 et 6 octobre 1789. Et là, j'ai essayé de relire ces journées au prisme d'autres archives. Par exemple, je n'ai pas choisi les quelques femmes comme Françoise Rollin, par exemple, qu'on connaît un peu, hein, même si il faut vraiment être souvent spécialiste de la Révolution française déjà pour connaître ces noms, c'est-à-dire celles qui vont les 5 et 6 octobre 1789 être en tête du cortège. Louison Chabry, par exemple, 17 ans seulement, hein, et qui vont aller trouver le roi, qui vont s'adresser à lui, qui vont le ramener à Paris. Moi, j'ai choisi l'une d'elles qui est beaucoup moins connue, qu'on trouve dans les archives, qu'on trouve dans des archives justement de la répression, Babette Leroux. En fait, ces femmes, pour la première fois justement, non seulement elles se mobilisent, vont à Versailles, ce qu'elles avaient l'habitude de faire, les dames de la Halle, elles allaient à Versailles pour faire allégeance au roi, pour faire leur révérence au roi, et dans une sorte de cérémonial de don contre don, recevoir en échange, comme si elles étaient en quelque sorte la synecdoque, la métonymie du peuple, comme si elle représentait le peuple, hein, la partie pour le tout, en échange donc recevoir la protection du roi. Mais cette fois, elles n'y vont pas du tout pour ça. Elles n'y vont pas pour faire allégeance ou pour faire révérence, pour prêter serment et pour prêter obéissance. Non, elles y vont pour ramener le roi. Et c'est là que c'est la première fois qu'elles occupent vraiment un rôle qui est à la fois social et politique. Mais ces dames de la Halle ne sont pas forcément les mêmes que ces femmes révolutionnaires radicales qu'on va retrouver dans les années 91, 92, jusqu'à 94, 95, qui, elles, vont aller beaucoup plus loin parce qu'elles vont vraiment revendiquer une pleine citoyenneté. Et les dames de la Halle, elles ne réclament pas forcément, d'ailleurs, le droit pour les femmes de voter ou le droit pour les femmes de porter les armes. Donc, parfois même, elles vont, ces dames de la Halle, être relativement critique, voire agressive, à l'égard des révolutionnaires radicales, à l'instar de Théroigne de Méricourt ou de Claire Lacombe, mais de bien d'autres encore que j'essaie de citer dans le livre et qui sont moins connues, qui vont, elles, revendiquer une véritable égalité. Et donc, bien sûr que ces droits, la plupart de ces droits, elles ne les obtiennent pas et que l'écrasante majorité des dirigeants révolutionnaires sont anti-féministes, pourrait-on dire avant le mot, en tout cas sont particulièrement misogynes et reconduisent des rôles de genre parfaitement normés, codifiés, extrêmement cadenassés. On peut dire que les femmes qui se mobilisent en tête des luttes pour la citoyenneté véritable des femmes et des hommes, elles sont dégenrées par les dirigeants révolutionnaires. Dégenrées, qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que, en fait, on les traite d'hommes-femmes, on les traite de viragos. C'est comme si elles n'étaient pas véritablement des femmes. Et non seulement elles sont dégenrées, mais elles sont aussi souvent dégénérées. Parce que, en fait, on les traite, et ça deviendra une ancienne, en fait, hein, quelque chose qui va courir dans des insultes, des calomnies tout au long de la période, jusqu'à presque nos jours, en fait. Hein, dégénérées au sens où on les traite d'hystériques, de folles, etc. Donc, il s'agit toujours de les disqualifier. Elles obtiennent quand même des droits. Et en fait, des droits qui ne sont pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes et les femmes, et qui, en ce sens, elle conçoit vraiment ses droits comme universels. Par exemple, le mariage civil, c'est vraiment énorme, le mariage civil. C'est-à-dire que les femmes ne dépendent plus de leur mari avec cette obtention du mariage civil sous la Révolution française. Le divorce aussi, extrêmement facilité. Voilà, le droit au divorce, les femmes peuvent aussi, les femmes mariées, régler leurs litiges devant des tribunaux. Elles ne dépendent plus de leur mari, qui n'a plus le droit d'ailleurs de les enfermer et de les écraser sous leur tutelle ou sous leur joug. Et c'est ça que le code civil, le code napoléonien, va évidemment changer du tout au tout et que les féministes vont combattre énormément. Donc d'un côté, c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a des régressions, y compris par rapport à ce qui se passait au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime, parce que vous avez sans doute en tête ce qu'on appelait les communaux. Les communaux, ces terres qui étaient des terres communes, des terres partagées, qu'on partageait sous l'angle d'une propriété non lucrative, mais d'une propriété d'usage. Ce n'était pas d'ailleurs uniquement des terres, mais ça peut être des moulins, des pressoirs, des outils agricoles notamment. Et les femmes, elles participaient aux assemblées autour de ces communaux, et elles avaient même le droit de vote. Donc ça, c'est vrai que ça a été une régression de constater sous la Révolution française qu'on a privé les femmes du droit de participer même aux assemblées au bout d'un certain moment, du droit de délibérer et a fortiori du droit de voter. Mais il y a eu d'autres avancées sur le plan, encore une fois, des droits civiques. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que souvent, comme vous le savez largement, on associe féminisme, Révolution française à Olympe de Gouges. Mais Olympe de Gouges, en fait, à cette époque, elle est très peu connue comme féministe. Par exemple, sa fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'a été diffusée qu'à 5 ou 6 exemplaires, peut-être. Donc c'est très, très peu. Et par ailleurs, elle est elle-même en conflit sous d'autres aspects avec d'autres féministes révolutionnaires de l'époque. Par exemple, là où certaines réclament vraiment une justice sociale, comme j'ai essayé de l'indiquer, elle, ce n'est pas véritablement son combat. C'est une militante de l'opposition à l'esclavage, et depuis avant même la Révolution française. En revanche, par exemple, cette déclaration de la femme et de la citoyenne, elle l'a dédiée à Marie-Antoinette, alors que c'est à l'automne 1791, et qu'il y a déjà eu la fuite de la famille royale, l'arrestation à Varennes. Elle ne va véritablement devenir républicaine qu'à la fin de l'année 1792. Donc en cela, elle s'oppose à d'autres de ces femmes révolutionnaires et radicales. Donc disons que tout ça permet de complexifier un petit peu la vision qu'on peut avoir du rapport entre révolution, femmes, genre et féminisme de manière plus générale.
Alors vous parlez, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à lire dans le livre et beaucoup de découvertes sur ces questions-là à travers les portraits et les analyses. Vous parlez de l'esclavage et puis dans le chapitre qui suit celui de la Révolution française, c'est une réflexion sur le long 19e siècle qui en France n'a pas été avare de moments de révolte. Les Trois Glorieuses de 1830, on pense au Canut lyonnais, même si c'est de l'autre côté de la France pour nous, bordelais, 1848. Et ce qui est intéressant, c'est que vous faites un récit qui sort un petit peu du côté, j'ai envie de dire, un petit peu bourgeois jacobin. C'est-à-dire bourgeois pour le côté, ben, c'est plus facile de trouver des sources de femmes lettrées et du bon monde qui savaient écrire, même dans l'intimité du fort privé. Et jacobin au sens où, très souvent, quand on écrit l'histoire de ces révoltes, on s'intéresse à la France métropolitaine, très peu aux colonies, qui deviennent quand même une pièce maîtresse à partir de 1830, et aux anciennes colonies des Antilles. Ma question est simple, on parle beaucoup aujourd'hui d'intersectionnalité dans le féminisme militant, c'est-à-dire comment on intègre les femmes racisées, les femmes noires, les femmes dominées, les femmes pauvres, etc., de vraiment diversifier ce féminisme. Est-ce que vous avez essayé de faire, pour ce 19e siècle-là, un récit d'intersectionnalité historienne, d'intégrer toutes ces voix dans votre récit de ces révoltes ?
Oui, d'ailleurs, ces femmes, disons qu'elles ne sont pas intégrées, elles luttent, et donc, forcément, c'est elles qui entrent dans le récit, et il s'agissait évidemment d'en rendre compte et finalement aussi de leur rendre, dans une certaine mesure également, hommage, je dirais même fémage. Hein, bon. Et c'est là qu'on retrouve nos contradictions. Parce qu'il y a d'un côté des femmes révolutionnaires qui sont parfois des esclaves affranchies. Donc on pense à Solitude, qu'on pense à Sanité Belair, notamment en Haïti, qu'on pense à celles qui sont souvent réduites au rôle là aussi de femmes d'eux, comme je l'ai dit pour Sophie Grouchy. Par exemple, Claire Heureuse. Claire Heureuse, c'est souvent voilà, une pure association avec son mari Jean-Jacques Dessalines, qui a été un des pères de la nation haïtienne. Mais en fait, Claire Heureuse ou Sanité Belair, c'était des femmes révolutionnaires incroyables qui, pour certaines, ont pris les armes contre l'esclavage et qui ont vaincu justement par la prise des armes. Sanité Belair, par exemple, elle était sergente, elle y était lieutenante. Et puis, en même temps, il y a ces contradictions parce que d'autres femmes, femmes anti-esclavagistes, comme c'est le cas par exemple des Saint-Simoniennes, qui sont souvent ouvrières, qui sont souvent autodidactes. Je pense à Suzanne Voilquin, par exemple, que je cite longuement au travers de son travail, elle, lui-même très autodidacte, d'écriture. C'est une écriture de soi, mais qui vise à mettre au jour la condition des femmes et ce qu'elles appellent souvent la condition des prolétaires des prolétaires. Hein. Suzanne Voilquin, c'était une ouvrière qui est devenue ensuite sage-femme, qui est devenue infirmière, qui était une socialiste, en fait. Et elle, elle est très opposée à l'esclavage dans les années 1820-1840. Mais d'un autre côté, finalement, elle épouse une certaine forme de colonialisme, parce que beaucoup de ces Saint-Simoniens et Saint-Simoniennes se disent bah, « on va réaliser le socialisme là où on a des espaces où s'installer, où ancrer notre socialisme ». Donc, par exemple, en Algérie ou par exemple en Égypte. Et Suzanne Voilquin, elle va vivre plusieurs années en Égypte. Et elle n'est pas sans contradiction, parce que d'un côté, ce sont des femmes incroyables de liberté et d'émancipation, incroyablement transgressives. Suzanne Voilquin, on est dans la première moitié du 19e siècle, elle prône une liberté pour les femmes de disposer de leur corps, de rompre avec la logique de la conjugalité, de la dépendance à l'égard de leur mari. C'est le cas aussi de Claire Desmarres, qui se suicide en 1833, mais non sans avoir écrit des textes absolument fascinants de liberté émancipatrice, vraiment, oui, d'un point de vue extrêmement libertaire. Et elles défendent aussi le droit à une libre sexualité, à la libre procréation également. Mais d'un autre côté, voilà, elles ont leurs contradictions parce que Suzanne Voilquin, eh bien, elle peut elle-même reconduire des préjugés, des clichés racistes de son temps, quand elle parle notamment des femmes arabes, en Égypte en particulier. Et donc, en fait, oui, ces femmes qu'aujourd'hui on dirait racisées, bah, en fait, non seulement elles prennent part au combat, mais elles prennent la parole, elles prennent part aux luttes. Et ça, bon, j'essaie de les retrouver jusqu'à nos jours, jusqu'à, par exemple, la magnifique poétesse Kiémis, qui est une poétesse afro-féministe, qui se revendique comme afro-péenne, et qui parle d'ailleurs de ses ancêtres, qui parle de ses ancêtres qui pourraient finalement marcher sur la vague des années. Qui parle des regards racistes qui encercueillent. Mais voilà, c'est en passant par notamment Françoise Héga, par exemple, cette femme noire qui se fait domestique dans les années 1950 et 1960 pour rendre compte de la condition justement des femmes exploitées comme subalternes, comme domestiques. Je pense aussi à Hawa Thiam, une militante féministe sénégalaise qui va écrire en 1978 « La parole aux négresses ». Et donc, qui va, elle aussi, employer une forme d'antiparastase, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire « nègre »,« négresse », je reprends le terme. Et j'en fais un terme de fierté, un terme de dignité, un terme revendiqué dans une perspective, justement, de justice qu'on nommerait aujourd'hui intersectionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles vont avoir le souci aussi de l'interpellation à l'égard d'autres femmes, à l'égard d'autres féministes, pour dire, mais est-ce que vous arrivez à tenir compte, justement, de toutes les formes de domination, de toutes les formes d'exploitation? Est-ce que vous-même, parfois, vous ne reproduisez pas des dominations? Pour vous donner un exemple un peu sous la forme d'emboîtement ou de poupée gigogne, comme ça, de mise en abîme, les féministes des années 1970 vont employer le slogan dont on a fait un livre avec Fanny Bunion et Fanny Gallo, prolétaire de tous les pays qui lave vos chaussettes. Voilà, bon, alors on reprend le slogan de l'international, mais on dit, ah oui, mais quand même, dans les luttes de classe, dans le mouvement ouvrier, dans le mouvement social et révolutionnaire, est-ce qu'on n'a pas oublié les femmes en route ? Donc, qui lave vos chaussettes, chers prolétaires, qui luttaient à juste titre dans une perspective d'émancipation sociale ? Mais le black féminisme a compté là aussi des années 70, le féminisme noir, né surtout en Amérique du Nord, va dire, oui, mais féministes de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ? Parce que, en fait, certaines féministes, souvent blanches, ne vont pas forcément voir à quel point elles reproduisent elles-mêmes des formes d'exploitation quand elles embauchent des femmes en tant que femmes de ménage ou domestiques, etc. Et même aujourd'hui, on pourrait considérer que ce que l'on nomme l'afroféminisme va interpeller le black féminisme, le féminisme noir, notamment noir américain, pour dire oui, mais peut-être que vous n'avez pas assez tenu compte depuis le nord dont vous parlez et dont vous luttez, depuis le nord global, depuis l'Occident, si vous voulez, vous n'avez pas forcément assez tenu compte des formes de colonialisme ou de néocolonialisme que l'afroféminisme essaye aussi de combattre. Donc on est dans des interpellations qui n'ont pas pour objectif de créer de la tension, du clivage ou des divergences fondamentales, mais créer de l'intelligence collective, je dirais.
Alors merci pour résumer, toujours très précis, et voilà, on ressort aussi
trop
bien...
Long,
aussi,
trop
non,
long,
pas du tout, sens, pas du tout, pas du tout, aussi bien nourri à l'écrit qu'à l'oral. Non, on a notre temps, et cet exemple des Saint-Simoniennes, donc le Saint-Simonisme, c'est ce mouvement très intéressant des années 1820-1830 en France, une sorte de qu'on classe parfois dans le socialisme utopique. Ce qui m'intéresse là, c'est de... Je pense que vous ne vous étiez pas dit en venant que les réflexions actuelles sur le polyamour et les couples libres étaient déjà mobilisées dans les années 1820. Ça m'amène à la question qui suit, c'est-à-dire que même quand on connaît bien l'histoire des féminismes, on se met un peu dans un ronron des vagues féministes. Alors la vague pour les suffragettes, les droits du suffrage à la fin du 19e, les années 70 dont on parlera après. Moi, ce qui m'intéresse dans les chapitres qui suivent celui-là, ce dont on a parlé, c'est que justement le mouvement... Le chapitre qu'on attendait sur le mouvement des suffragettes, ben, vous l'abordez fin 19e sur la question du travail, donc vraiment les luttes pour les émancipations au travail, sur la question du pacifisme, qui est très intéressant. Et comme il faut garder des surprises, vous allez lire, je ne parle pas de tout. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce point sur la question de la résistance. Donc là, on saute vers 39-45, parce que ça pose un cas d'école. Vous parlez beaucoup de résistantes. Yvonne Midaven, Edith Thomas, Émilienne Mopti, qui est au FTP, au Front Tireur et Partisans. Et là, on a un cas d'école, puisqu'on a eu beaucoup de résistantes féminines. Il y a eu quelques livres ces derniers temps sur la question. On redécouvre cette résistance féminine contre l'occupant nazi. Pourquoi ça a disparu ? Pourquoi est-ce qu'il y a eu une invisibilisation de ces résistantes féminines ? Est-ce qu'il y a eu une volonté farouche de les effacer de l'histoire par des résistants masculins ? Est-ce qu'il y a eu une auto... une sorte de pudeur, à ne pas réclamer les quartiers d'héroïsme. Pourquoi on oublie ces résistantes après la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de volonté délibérée, travaillée à toute force pour les effacer, mais là, dans votre question, il y a déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire c'est une sorte d'intériorisation d'une humilité, en fait, d'une humilité dans les actes. Par exemple, ce qu'on retrouve beaucoup dans des archives, alors là, pour le coup, des archives de police, des archives de préfecture, des archives de la Fellkommandantur, par exemple, dans le Nord et le Pas-de-Calais, ce sont à la fois des femmes qui vont se mobiliser comme ménagères, par exemple, comme mères de famille, et qui vont organiser des rassemblements. Et c'est extrêmement dangereux, c'est risqué, qui vont organiser des rassemblements, notamment pour lutter en faveur d'un meilleur ravitaillement. Bon, et souvent, elles sont réprimées. D'autres femmes, comme Émilienne Mopti, et je voudrais bien en effet revenir sur cette femme qui m'a paru extraordinaire, et je ne l'avais jamais croisée. Après, évidemment, je n'ai pas tout lu, bien évidemment, mais je ne l'avais jamais croisée dans des ouvrages, et pourtant, c'est une résistante extraordinaire. Émilienne Mopti, c'est une ouvrière du Pas-de-Calais. Donc, elle travaille dans les filatures, et elle est aussi une épouse de mineur. Et donc au printemps 1941, il va y avoir cette extraordinaire grève des mineurs dans le Nord et le Pas-de-Calais, qui est une forme de résistance. Et les femmes vont y participer, vont soutenir, mais aller bien au-delà d'une simple solidarité. Elles sont partie prenante complètement de cette mobilisation comme femmes. Et par exemple, à Angers, dans notre exposition, celle dont je vous parlais, on a une extraordinaire œuvre, alors pas sur le plan esthétique ou artistique, mais c'est une œuvre qu'elles ont réalisée sous la forme d'une mosaïque, où on les voit, ces femmes de mineurs, souvent elles-mêmes ouvrières, le corps vraiment face à des baïonnettes de soldats de l'occupation, évidemment, parce qu'en plus, c'est un département qui est annexé à cette époque. Et Emilienne Mopti, on va la retrouver, en effet, elle parvient à s'échapper, à échapper à la première vague de répression du printemps 1941 contre la grève des mineurs. Et alors, par exemple, c'est très émouvant, et je le reproduis dans le livre, on trouve dans un carton d'archives, aux archives départementales du Nord, des petites photographies d'identité d'Emilienne Mopti dans les archives du préfet et de la Feldkommandant Tour, parce qu'en fait, elle est traquée. Donc, on va diffuser sa photographie pour essayer de la retrouver. Et on la retrouve 2 ans plus tard. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce temps-là? Elle est rentrée dans des réseaux de résistance, notamment les FTP, en effet. Elle a tenté notamment une opération avec d'autres résistants et résistantes, une opération pour libérer des prisonniers. Mais la Gestapo est au courant de cette opération, va opérer un terrible coup de filet, et Emilienne Mopti, parmi d'autres, va être arrêtée, déportée en Allemagne, où elle va être exécutée de la manière la plus tragique, dramatique qui soit, puisqu'elle va être décapitée à la hache à Cologne, le 18 juin 1943. Et on dit d'ailleurs qu'au moment de son exécution, juste avant son exécution, elle a entonné l'Internationale. Donc souvent, en fait, ces femmes, elles sont très modestes dans la manière dont, parfois, quand elles ont survécu, heureusement pour beaucoup, pour certaines, elles ont intériorisé cette idée d'une humilité de leurs gestes. Je pense notamment à cette femme aussi que j'ai trouvée extraordinaire, mais on la trouve vraiment dans les archives. Madeleine Porquet, qui est une institutrice libertaire, syndicaliste, qui participait à la veille de la guerre au Comité mondial des femmes contre le fascisme et contre la guerre, et qu'on va retrouver dans la résistance, mais humblement, à distribuer des tracts, distribuer des textes, des journaux clandestins, par exemple la Ménagère du Nord. Et en fait, par exemple, là, j'étais un moment devant tout son dossier, devant son interrogatoire par les puissances occupantes, et puis elle tient bon, elle ne livre aucun nom. Alors que, évidemment, c'est interrogatoire, c'est vraiment des pressions considérables, elles ne livrent aucun nom. Moi, je n'ai pas véritablement d'explication sur le fait qu'elles aient à ce point disparu. Pourtant, par exemple, Madeleine Porquet, ben, finalement, c'est devenu une femme, elle a survécu à la guerre et elle s'est engagée aussi dans des réseaux de pédagogie émancipatrice, alternative. Bon, voilà, il s'agissait de les faire ressurgir, à l'instar d'Edith Thomas, que vous avez cité, je vous en remercie aussi, Nicolas. Edith Thomas, parce qu'on dit souvent, et à raison, bien sûr, la pionnière de l'histoire des femmes et des féminismes, c'est Michel Perrault. Bah, bien sûr, Michel Perrault, ça a été incroyable dans les années 70. Mais en fait, certaines des femmes que j'évoque, elles sont déjà non seulement des féministes et des militantes et des combattantes, mais elles sont aussi des historiennes des féministes. Je pense à Hélène Brion, notamment pendant la Première Guerre mondiale et après. Et je pense aussi à Edith Thomas, parce que c'est une extraordinaire féministe, résistante, combattante, mais aussi une historienne qui s'est beaucoup intéressée aux femmes féministes du 19e siècle, des socialistes du 19e siècle, des femmes de la Commune. Et donc, ces textes sont extraordinaires, ces livres sont magnifiques. Et d'ailleurs, elle-même se dit... Si je n'étais pas moi-même montée sur les barricades en 1944, je n'aurais pas forcément fait le même récit des barricades de 1848 ou de 1871. Donc il y a Chloé Leprince, par exemple, qui a réédité des textes, des textes d'Edith Thomas. Mais pour moi, Edith Thomas, c'est le symbole beaucoup trop méconnu de cet entremêlement justement de lutte à la fois historique et historiographique, historienne.
Merci pour cette réponse. Et encore une fois, vous voyez toute la découverte de noms qu'on n'a pas l'habitude de croiser hein, sur ces éléments historiques qu'on croit bien connaître. La résistance, la Seconde Guerre mondiale, c'est des champs historiographiques très défrichés. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans la suite du récit, il y a évidemment les grands moments, hein, ces vagues de combats féministes qui existent quand même avec les années 60-70, revendications sur le corps, sur l'IVG, sur la procréation, ces choses-là. Il y a des, évidemment des pages sur le MLF. Ce qui m'intéresse, et aussi parce que je pense que ça peut être très important pour le moment qu'on vit aujourd'hui, c'est la régression, c'est-à-dire les années d'après. Il y a une autrice féministe qui s'appelle Suzanne Faloudi qui a théorisé la notion du backlash, le retour de bâton. Ces années 80-90, après les grands mouvements de conquête pour les femmes, notamment aux États-Unis, il y a une sorte de grand hiver, hein, de réaffirmation de la norme patriarcale, où les critiques se font connaître. Et évidemment, vous me voyez venir, c'est aussi ce qu'on vit un peu aujourd'hui, alors avec les remises en cause de l'IVG en Pologne ou ailleurs, ou même aux États-Unis, et puis avec Trump qui arrive au pouvoir, avec un soutien masculiniste très fort et qui commence, bon, c'est un exemple parmi mille, mais à effacer les noms des femmes, par exemple, dans la NASA. Il a demandé expressément à ce qu'on enlève tous les noms de femmes qui ont participé à la NASA. Alors, je reviens à ma question par rapport à l'actualité. Ce backlash, comment vous le mettez, ce retour de bâton du masculin par rapport aux conquêtes féminines, comment vous le mettez en récit? Est-ce que vous poussez jusqu'au côté d'histoire vraiment du genre, c'est-à-dire le féminin qui est toujours indissociable de ces combats politiques avec le masculin? Est-ce que c'était quelque chose vers lequel vous vouliez pousser?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression d'une sorte d'hiver. Alors, je reprends d'ailleurs une formule, là, tout à coup, ça me vient de Louise Michel, l'hiver séculaire à partir des années 80. Parce qu'on a le sentiment que les années 70 ont été tellement effervescentes et on doit tellement aussi à ces générations, au pluriel, hein, parce que c'est un mouvement intergénérationnel, des années 68, ça a été gigantesque. C'est une révolution anthropologique, hein. Une révolution anthropologique, ça a changé vraiment les bases même de l'humanité. Et moi, je me sens parfaitement en dette à l'égard de toutes ces femmes, et singulièrement de ce qui s'est noué dans ces années 70, avec de grands mouvements à la fois très joyeux, c'est comme un grand éclat de rire, mais c'était aussi des mouvements parfois très durs, des mouvements qui ont été parfois réprimés. Et donc on a le sentiment que les années suivantes ont été plutôt un recul, l'hiver séculaire donc de Louise Michel. En réalité, beaucoup tiennent dans la durée, et moi ce qui force aussi mon admiration, c'est de voir que beaucoup de féministes qui ont commencé à combattre pour les droits dans les années 70 sont toujours là aujourd'hui, sont toujours dans les manifestations. Et j'imagine qu'il y en a parmi vous, même si je ne vous vois pas, encore une fois, mais je vous salue quand même très chaleureusement et avec gratitude, justement. Mais en réalité, dans les années 80, il a fallu transmettre vraiment cette flamme avec toujours la même ténacité, mais moins de visibilité. Par exemple, c'est vraiment aussi dans les années 80 que les luttes contre les violences faites aux femmes, on en parle bien sûr aujourd'hui, mais dans les années 80, ça a été énorme, en fait. Par exemple, les marches de nuit. Les marches de nuit, notamment les marches ça peut être les marches du 7 au 8 mars, dans la nuit du 7 au 8 mars, des marches non mixtes, et souvent en réaction à un viol ou à ce qu'on nommait pas encore un féminicide. Ça a été très, très courageux. Ce qu'on trouve dans les archives, justement, par rapport à ce sentiment de retour de bâton qu'elles vivent pleinement dans les années 80 et 90, c'est que, voilà, on trouve par exemple des petites affiches qui, contre le viol, d'interpellations aussi sur la lâcheté par rapport à ces viols. Beaucoup d'interrogations complexes également. C'est ça qui m'a intéressée, parce que, comme vous l'avez souligné à plusieurs reprises, Nicolas, en fait, ça nous fait réfléchir pour aujourd'hui. Ce sont des sources d'inspiration, mais des sources aussi d'interrogation. Par exemple, est-ce qu'il faut porter plainte? Est-ce que, par exemple, porter plainte, c'est pas aller à l'encontre d'une proposition aussi émancipatrice, anticarcérale? Donc, voilà, il y a beaucoup de doutes. Mais elles tiennent bon, elles organisent des collectifs, elles organisent des maisons des femmes, elles organisent des refuges. Donc il y a toute cette forme d'autonomie, ça c'est vraiment un mot-clé hein, de toute cette histoire, c'est l'autonomie, c'est comment s'organiser à la base, dans les quartiers, dans les entreprises, dans les communes en fait, pour tenir justement à un moment où on a l'impression d'un écrasement. Lutter contre justement les commandos anti-IVG qui vont parfois pénétrer dans les cliniques, les hôpitaux. Il ne suffit pas de la loi Veil, en fait. Encore faut-il qu'elle soit appliquée, encore faut-il qu'elle soit mise en œuvre dans de bonnes conditions. Et c'est la raison pour laquelle je montre que encore dans les années 80, eh bien, il y a toujours des pratiques d'IVG, et ça je renvoie bien sûr aux travaux de Bibia Pavard, mais des pratiques d'avortement solidaires, entre femmes, sans forcément de personnel médical autonome, mais parce que c'est pas forcément possible dans les hôpitaux, parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'il n'y a pas toujours de rendez-vous, parce qu'il y a des médecins qui s'y opposent, parce que c'est pas autorisé pour les femmes sans papiers, pour les femmes étrangères sans papiers, je reprends le terme même de ces luttes, ou pour les mineurs par exemple. Donc c'est vraiment l'idée d'être très très solidaire. Donc elles tiennent bon et elles font face, encore une fois, dans des conditions de forte hostilité à ce retour de bâton dans les années 80-90. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, aujourd'hui, finalement, le moment incroyable qu'on vit, parce que je parlais d'une révolution anthropologique, c'est vrai que vous avez raison de mentionner ces pulsions virilistes, masculinistes, fascisantes. Avec Hugo Paletta, on a écrit un livre qui s'appelle « Face à la menace fasciste ». Je viens d'écrire aussi un petit livre en septembre, il est sorti aux éditions du Croquant, « Battre l'extrême droite ». Bon, c'est lié quand même tout ça, hein, cette fascisation rampante qui est aussi masculiniste, hein, vous venez de le citer au travers de cet exemple terrible qu'on voit aussi en Argentine, qu'on voit au Mexique à bien des égards. C'est au Mexique qu'est apparu le terme de féminicide. Mais en même temps, c'est un moment extraordinaire par la force très solidaire, d'ailleurs, même s'il y a des clivages, on pourra éventuellement y revenir, mais par la force très solidaire de toutes ces mobilisations en tant qu'êtres humaines, en fait. Pas seulement femmes, d'ailleurs, pas seulement féministes, mais en tant qu'êtres humaines. Pour toutes les personnes qui connaissent, justement, des formes d'oppression, de discrimination, des violences. Et donc, moi, ce que je trouve très beau, très fort dans cette période, c'est justement, notamment dans les jeunes générations, mais pas seulement, cet incroyable humour, cette incroyable inventivité, créativité qu'on a trouvé notamment dans les années 70, mais qui a de plus en plus conscience, justement, et c'est le fil directeur du livre, de plus en plus conscience de la nécessité d'être très, très attentive, très vigilante, à ne pas soi-même reproduire d'autres formes d'oppression ou de domination.
Merci. Alors, ce sera ma dernière question avant celle du public, hein, dans quelques minutes, qui revient un peu sur la méthode, mais qui permet aussi de sortir du livre. Le moment MeToo, ces dernières années, donc voilà cette vague, hein, qui résume beaucoup de combats féministes, mais sur la question des violences faites aux femmes, toutes les violences faites aux femmes, comment vous l'écrivez? Comment on fait de l'histoire du temps très présent, en étant soi-même actrice de ces mouvements-là? Comment vous arrivez à écrire tout ça?
Oui, alors moi, évidemment, ce qui m'a intéressée, c'est que dans ces dernières années, repartir aussi de luttes qui ont fait cette intersection, justement, de mobilisation. Par exemple, le moment MeToo, c'est aussi un moment de grève féministe. Voilà, c'est aussi une proposition stratégique qui a été avancée depuis l'Amérique latine. Je parlais du Mexique, on peut évidemment parler de l'Argentine, parce que c'est vraiment de là que beaucoup de mobilisations partent, l'écoféminisme par exemple, cette manière, et comment on peut les suivre en fait, ces propositions écoféministes, cette manière de dire que la mobilisation contre la loi du capital, la loi du marché, la loi de l'exploitation, contre l'écocide, le biocide, la destruction du vivant, la prédation, contre les violences faites aux femmes, la marchandisation, ben tout ça est entremêlé. Et par exemple, c'est en Amérique latine, dans le mouvement féministe, notamment Chicanas, qu'on trouve des mots comme « ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête », et qu'on voit apparaître, tout à l'heure on parlait en coulisses, du mouvement des gilets jaunes, ben on voit apparaître ces mots-là sur certains gilets jaunes. C'est grève féministe, je parlais de grève féministe, hein, comme une proposition stratégique avec toute une théorisation, et là je cite les travaux d'Aurore Koechlin notamment, sur travail productif, travail reproductif, d'un point de vue matérialiste, comment il y a de plus en plus de théorisation, mais aussi de propositions stratégiques en concordance avec cette théorisation, c'est-à-dire le travail reproductif, le travail du soin, élever, nourrir, voilà, prendre soin, la sollicitude, etc. La grève féministe en tant que grève de femmes et grève aussi, féministe, voilà, dans ces différentes mobilisations. Mais je cite également des mobilisations qui ont été très importantes pour l'intersectionnalité. L'exemple que je peux prendre ici, c'est celui des femmes de chambre de l'Ibis Batignolles. Parce qu'on a eu beaucoup de grèves de femmes de chambre dans des hôtels. Ça a été d'ailleurs un mouvement très solidaire. Il y en a eu plusieurs et ça continue. Sylvie, par exemple, Kémis Esper, ou Rachel Keke, hein, que je cite dans le livre, ce sont des femmes qui sont souvent des femmes noires, des femmes migrantes qui sont arrivées en France il y a plus ou moins longtemps, qui subissent donc le racisme, qui subissent le sexisme, qui subissent des conditions d'exploitation terribles, qui se syndiquent, qui mènent des luttes incroyables, qui font des piquets de grève, qui créent des caisses de solidarité, qui engrangent justement ces formes de solidarité elles-mêmes très intersectionnelles, qui se lient avec d'autres mouvements sociaux, parfois avec les mouvements comme ceux des Gilets jaunes, etc. Et donc, elles symbolisent à mes yeux voilà, ce moment, là aussi d'effervescence, là aussi d'ébullition, qu'on peut suivre alors avec d'autres sources, évidemment. Du point de vue méthodologique, ce ne sont plus les mêmes sources, c'est des témoignages, ce sont des articles de presse, des manifestes, des tracts, des films, des vidéos, etc., des poèmes, des chants de lutte. Hein. C'est le cas, par exemple, pour ces femmes de chambre, et puis tous ces chants qu'on entend dans les manifestations. Certaines reprennent la longue histoire de ces mots d'ordre et de désordre, et puis d'autres aussi créent de nouvelles formes poétiques et politiques. Donc finalement, voilà, ce n'est qu'un début.
Merci beaucoup pour ce livre qui est pas seulement un panthéon, mais vraiment une sororité transhistorique.